passer à l'étude biblique mercredi. Quel beau moment. Et on voit des nouvelles figures et on est vraiment encouragés par les témoignages d'une sœur qui est venue il y a deux semaines, qui nous a donné un témoignage qui a touché beaucoup de cœurs. Et on vous encourage, si le mercredi soir vous êtes disponible à participer à ces réunions qui nous permettent d'approfondir la parole de Dieu. On est toujours dans l'Évangile de Matthieu, dans les Béatitudes, et c'est vraiment enrichissant pour nous de découvrir finalement que les Béatitudes, ça correspond au caractère de Jésus-Christ, et ce caractère-là, c'est ce que Jésus veut nous donner, c'est extraordinaire, quoi. Alors ce matin, on va continuer la deuxième partie du message qu'on a commencé la semaine dernière. C'est la joie est quelque chose qui se trouve à l'intérieur. La joie est quelque chose qui se trouve à l'intérieur. Et pour simplement nous retremper dans le message de la semaine passée, je vous invite à tourner avec moi dans Romains chapitre 5. Nous allons lire les versets 1 et 2. Romains chapitre 5, versets 1 et 2. C'est pas là ce matin, c'est pour ça qu'il fait moins chaud. Ah, voilà. Je me demandais si je devais faire aller le ventilateur ou pas, c'est vrai que c'est pas. Hein? Versets 1 et 2. Ça va pour le micro, Jean-François? Étant donc rendus justes devant Dieu à cause de la foi, nous sommes maintenant en paix avec lui par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir pu, au moyen de la foi, nous approcher de la grâce de Dieu, dans laquelle nous demeurons fermes. Et ce qui nous donne de la joie, c'est l'espérance d'avoir part à la gloire de Dieu. La semaine dernière, nous avons abordé le sujet de la joie. Et nous avons expliqué la différence qui existait entre le bonheur et la joie. Et la joie est indispensable non seulement pour amener ceux qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ à le connaître, mais elle est essentielle pour vivre simplement la vie chrétienne. La joie que nous avons est la preuve que ce que nous annonçons est une réalité dans notre cœur et qu'il est suffisant pour satisfaire tout ce dont nous avons besoin. Le psalmiste disait dans le psaume 100, verset 2, à son époque que nous devons servir le Seigneur avec joie. Et en fait, on sert le Seigneur pas pour qu'il nous reconnaisse, pas pour qu'il nous aime plus, mais par reconnaissance pour ce qu'il a fait pour nous. Lorsque nous regardons à la tristesse qui envahit ce monde avec tout ce que cela peut comporter, c'est vrai qu'il est difficile de rester joyeux. D'une seconde à l'autre, votre joie peut être transformée en chagrin et votre gaieté en consternation. Pourquoi rester dans cet état? La joie qui doit être la nôtre ne saurait être entravée par les mauvaises nouvelles que nous entendons au quotidien. Voilà pourquoi c'est Dieu lui-même qui se charge de nous donner cette joie qui vient d'en haut. Ce n'est pas une joie que le monde peut nous donner, c'est une joie qui vient d'en haut. Voilà pourquoi on doit naître de nouveau, voilà pourquoi on doit naître d'en haut, pour recevoir d'en haut ce que Dieu veut nous donner à chacun. La joie qui vient d'en haut, la paix qui vient d'en haut. Il n'y a aucune religion qui peut nous donner ça. Aucune religion. Tout ce que le monde peut nous donner, c'est l'illusion qu'on peut être heureux, c'est l'illusion qu'on peut être dans la joie. Mais on ne vit pas d'illusion. On vit de certitude, et si on est né de nouveau, Dieu nous donne sa joie qui vient d'en haut, Dieu nous donne sa paix qui vient d'en haut. Amen. Romains chapitre 15, verset 13, Paul dit que le Dieu de l'espérance vous remplisse de joie, que le Dieu de l'espérance vous remplisse de joie, que le Dieu en qui vous espérez vous remplisse votre cœur de joie, que le Dieu en qui vous avez mis votre confiance remplisse votre cœur de joie. Il est une source intarissable de joie. Habacuc chapitre 3, verset 18, mais moi, je trouve ma joie dans le Seigneur. Mais moi, je trouve ma joie dans le Seigneur. Habacuc dit pas, moi, je trouve ma joie dans les femmes. Moi, je trouve ma joie dans les hommes. Moi, je trouve ma joie dans la boisson. Moi, je trouve ma joie dans la drogue. Habacuc, il dit, moi, je trouve ma joie dans le Seigneur. Parce qu'il sait que cette joie, elle est éternelle. Et que s'il la perd, cette joie, c'est parce qu'il a permis au diable de lui voler sa joie. Frères et sœurs, le diable ne peut faire sur nous que ce que nous lui permettons de faire. Il n'a plus aucun pouvoir sur nous, c'est ce que Jésus nous a enseigné. Il a vaincu, le malin, il a été vaincu à la croix. Et j'espère que la croix ce matin, eh bien, elle est une réalité dans votre vie, elle n'est pas simplement un symbole ou se limite à être un pendatif dans votre cou, mais qu'elle est une réalité qui agit avec puissance dans votre vie. Tout passe par la croix. Tout passe par la croix. Si Jésus n'était pas surmonté sur la croix, moi, je n'ai rien à vous dire ce matin, parce que je ne lui appartiendrai pas. Je serai toujours condamné, sujet au jugement dernier, et je vivrai sans espérance. Mais voilà, j'ai rencontré Jésus-Christ un jour, il y a plus de 30 ans, et Jésus a changé ma vie. Et le message de la croix, eh bien, m'a complètement transformé et m'a donné une nouvelle espérance. Mes péchés sont pardonnés, et j'ai l'assurance que quand je comparaîtrai devant Dieu au jugement dernier, eh bien, Dieu ne me verra pas en fonction de ce que j'aurai fait. Il va me voir à travers ce que Jésus a accompli pour moi, la décision que j'ai prise, et à ce moment-là, eh bien, je serai dans son paradis pour l'éternité. Et la Bible va plus loin que ça. La Bible nous dit qu'un jour, Dieu va mettre fin à tout ce qu'on voit aujourd'hui. Dieu a déjà détruit le monde par le déluge, et la prochaine fois, Dieu dit qu'il va détruire le monde par le feu. Tout va s'embraser, pas juste la terre, les cieux, l'univers au complet va s'embraser. Dieu va recréer une nouvelle terre, des nouveaux cieux. Et à partir de là, Dieu va recréer un nouveau monde, c'est-à-dire comme au commencement, qu'au mieux qu'au commencement, et ceux qui auront placé leur confiance pour leur recevoir le pardon de leurs péchés en Jésus-Christ vont recevoir un nouveau corps, un corps glorifié, un corps qui ne sera pas exempt, qui ne sera pas porté à vieillir, à être malade, à mourir, parce que la Bible dans l'Apocalypse nous dit que la mort n'existera plus, parce que le péché n'existera plus, parce que Satan ne fera plus partie de ce monde, ce nouveau monde que Dieu va créer. Et moi, je vis en fonction de cette nouvelle terre et ces nouveaux cieux que Dieu va créer un jour. Et j'espère que c'est votre espérance à vous tous ce matin qui entendez ce message. Dieu est bon. Dieu ne nous doit rien. Dieu ne nous doit rien. Oui, rappelons-nous de ça. Dieu ne nous doit rien. On lui doit tout. On lui doit tout. Rappelez-vous, Dieu qui tient l'univers dans sa main. On a de la difficulté à se promener avec une goutte d'eau dans notre main, sans l'échapper. Dieu tient l'univers dans sa main, nous dit la parole. Et il n'y a rien qui échappe à son regard. Vous imaginez? Rien qui échappe à son regard. Aucun grain de poussière, aucun atome n'échappe au regard de Dieu. Il voit tout en même temps. Essayez d'imaginer. Vous êtes incapable, avec votre intelligence humaine, d'entrer dans le domaine de Dieu. Essayez de penser que Dieu s'y voit tout en même temps. Moi, je vous vois, je suis incapable de dire ce qui se passe en arrière de moi. Dieu voit tout. Pas juste sur la terre, partout. Essayez d'imaginer. On est dans une pièce de notre maison, c'est pas ce que nos enfants font dans l'autre pièce. Vous êtes en Afrique, vous êtes en Amérique, vous êtes en Europe. Dieu voit tout en même temps. Il fait noir de l'autre côté, il fait jour de l'autre côté, Dieu ne dort jamais. Dieu sait tout, voit tout ce qui se passe. Mais pire encore, Dieu entend tout ce qu'on dit dans le secret de nos chambres. Et la parole nous dit qu'on en aura à rendre compte de tout ce qu'on aura dit en secret devant Dieu. Dieu. Que le Dieu des espérances vous remplisse de joie. Vous avez peut-être perdu votre joie, le chagrin s'est peut-être abattu sur vous, et rien ne peut empêcher vos larmes de couler sur votre visage. Écoutez le message de Dieu pour vous. Moi, j'ai mission de remplacer les marques de leur tristesse par autant de marques de joie. Ésaïe, chapitre 61, 3. Moi, j'ai pour mission... Moi, j'ai pour mission de remplacer vos larmes ce matin, et pour plutôt que de mettre des larmes qui marquent, qui étaient un signe de tristesse sur votre visage, eh bien, j'ai pour mission de poser des marques de joie. Amen! Amen, frères et sœurs. Oui, oui. Je ne suis pas en train de vous dire qu'un chrétien ne peut pas être triste, mais un chrétien ne peut pas perdre sa joie, la joie qui vient de Dieu. Ça, c'est tout à fait différent. Le Seigneur est pour moi une source de joie débordante. Ésaïe, chapitre 61, verset 10. Le Seigneur est pour moi une source de joie débordante. Mon Dieu me remplit de bonheur, car le secours qu'il m'accorde est un habit dont il me vêt, et le salut qu'il m'apporte, un manteau dont il me couvre. Oh, Isaïe, quelle relation extraordinaire il avait avec son Dieu, n'est-ce pas? Néhémie, chapitre 8, verset 10. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel est votre force. Mes frères et sœurs, l'inverse est également vrai. Si la joie de l'Éternel est votre force, quand vous manquez de joie, vous manquez aussi de force. L'inverse est aussi vrai. Paul parle dans Romains chapitre 5 de quatre ingrédients qui sont à la base de cette joie et qui font en sorte que la vie vaut la peine d'être vécue. Nous avons vu la semaine dernière les deux premiers ingrédients. Le premier ingrédient, c'est une vie débarrassée de toute crasse. Une vie débarrassée de toute crasse. Pourquoi? Parce que le fait de savoir que nous avons été purifiés de tout péché, que nous avons été reconnus justes aux yeux de Dieu et que nos noms sont inscrits dans les cieux, apporte une joie indescriptible dans notre cœur. Et j'avais pris l'exemple la semaine dernière, lorsque Jésus envoie les 70 disciples, les 70 disciples, à aller rendre témoignage et qu'ils reviennent. Ils se réjouissent. Ils viennent dire au maître, « Oh Seigneur, les démons nous étaient soumis. On chassait des démons à ton nom. » Et qu'est-ce que Jésus dit? « Réjouissez-vous que vos noms sont inscrits dans les cieux. » Réjouissez-vous que vos noms sont inscrits dans les cieux. Vous tous qui êtes ici présents ce matin, avez-vous l'assurance que vos noms sont inscrits dans les cieux? C'est ce qui va faire la différence si vous allez passer l'éternité dans la présence de Dieu et si vous allez subir le jugement pour vos péchés, être séparés de Dieu pour l'éternité. Vos noms doivent être inscrits dans le livre de vie. Et Jésus dit à ses disciples, réjouissez-vous que vos noms soient inscrits dans les cieux. Pas facile à entendre ce matin, hein? Mais ça ne vient pas de ma bouche, c'est Jésus qui le dit. Et Jésus, c'est Dieu fait homme. Jacques dit au chapitre 1, 2, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les différentes épreuves, les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Et on a de la difficulté à saisir qu'à travers les épreuves, ça peut être bénéfique pour nous, les épreuves. Et pourtant, la parole nous dit que Dieu, c'est vrai que Dieu crée le bonheur, mais c'est aussi vrai que Dieu crée le malheur. Hein? C'est biblique, c'est parce que... Pourquoi? Parce qu'il sait que dans les épreuves, hein? Il sait que dans les épreuves, quand on a un esprit égoïste, quand on a un cœur égoïste qui pense qu'à soi, bien, on risque de se tourner vers lui et de crier au secours. Quand il n'y a plus aucune main humaine qui veut nous aider, bien, souvent l'homme, il est comme ça. Quand il est dans le fond du baril, qui est en train de se noyer, bien, là, il crie. Il crie. C'est pas tellement où il crie, mais il crie. Là, il cherche du secours. Et Dieu, dans sa bonté, Dieu, dans son amour, va lui tendre la main et, pour le sortir du fond du baril et finalement l'amener sur de solides fondations, le sortir. Et pourquoi? Simplement pour que l'homme puisse prendre connaissance qu'il y a un Créateur au-dessus de lui, un Créateur qui n'est pas là pour le juger, un Créateur qui l'aime, un Créateur qui veut marcher avec lui à tous les jours, un Créateur qui ne le trompera jamais, parce que Dieu dit qu'il n'est pas comme les hommes, il n'est pas un menteur. Dieu dit la vérité et Jésus a dit, « Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. » Amen. Ouais. Si vous êtes déçu parce qu'il y a des hommes et des femmes qui vous ont dit « Compte sur moi, tu peux me faire confiance » et qui vous ont déçu, je peux vous dire une chose, vous pouvez compter sur Dieu, vous pouvez lui faire confiance. Jamais Dieu ne vous décevra. Jamais Dieu ne vous décevra. Jamais Jésus ne vous décevra. Notre joie ne provient pas de l'épreuve elle-même, mais elle est le fruit de notre espérance en Dieu. Et en son secours, car nous savons qu'il est fidèle et qu'il nous délivre de toutes nos difficultés. Si nous nous rappelons ce que nous sommes en Jésus-Christ, c'est-à-dire ses enfants et ses héritiers, appelés à régner avec lui sur ce nouveau monde, sur cette nouvelle terre qu'il va créer un jour, nous ne serons pas découragés lorsque nous ferons face aux tentations et aux problèmes que nous rencontrons dans la vie. Au contraire, nous apprendrons à compter sur la puissance du Saint-Esprit qui vit en nous, qui est disponible pour tous ceux qui lui appartiennent. Premier ingrédient, on a besoin d'avoir une vie purifiée, une vie où il n'y a plus de crasse dans notre cœur. Et on parle du Saint-Esprit. Hein. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, le Saint-Esprit. Hein. Des fois, c'est nébuleux pour les gens, hein. Un Esprit Saint. Mais en fait, dans l'hébreu, hein, on ne devrait pas dire le Saint-Esprit, on devrait dire un esprit de sainteté. C'est ça que ça veut dire. Le Saint-Esprit qui habite en nous, Dieu nous donne un esprit de sainteté et Dieu va prendre tous les moyens, si on lui appartient, pour faire en sorte qu'on devienne saint comme lui-même est saint, parce que c'est ce qu'il nous dit, hein? « Soyez saints car je suis saint, moi l'Éternel, dit-il. » Ouais. Et quand on parle de l'esprit de sainteté, je trouve que ça a beaucoup plus d'impact que de dire « Le Saint-Esprit habite en toi. » C'est l'esprit de sainteté qui habite en toi. Et s'il y a de la crasse dans ta vie, et si tu ne veux pas sortir cette crasse, Dieu va prendre tous les moyens pour te la faire sortir si tu lui appartiens vraiment. Si tu ne lui appartiens pas, si c'est une religion que tu joues, Dieu va te laisser dans ta crasse. Et ce que Dieu veut, c'est purifier notre cœur, frères et sœurs. Si ça fait partie de son projet. Dieu est un Dieu saint. Il veut que ses enfants vivent dans la sainteté. Et il nous a donné l'esprit de sainteté, le même esprit qui habitait Jésus-Christ. C'est le même. Parce que c'est l'esprit de Jésus qu'il veut mettre en nous. C'est extraordinaire. C'est un miracle. Ça, c'est le vrai christianisme. Voilà pourquoi on n'est jamais plus seul dans la vie. Il y a Christ qui habite en nous par son esprit. L'esprit de sainteté, nous dit la parole. C'est magnifique, non? Ah, c'est encourageant. Frères et sœurs, cette joie qui vient du ciel, elle demeure inébranlable dans les pires moments de la vie. Paul dit, 2 Corinthiens, chapitre 7, verset 4. Et là, je ne parle pas de n'importe qui, je parle de quelqu'un qui a été lapidé à plusieurs reprises, qui a manqué de se noyer à plusieurs reprises, qui a vécu dans l'eau pendant 24 heures, qui a été rejeté par tout le monde, y compris les chrétiens en Asie. Il dit, car tous m'ont abandonné. Et regardez ce qu'il dit ici. 2 Corinthiens, chapitre 7, verset 4. Dans toutes nos souffrances, je demeure plein de courage et je déborde de joie. Est-ce qu'on a raison d'être triste ce matin, frères et sœurs? Vous savez pourquoi on est triste? Parce qu'on s'écoute au lieu d'écouter la parole. Ah, oh, je fais pitié, moi. Hein? C'est vrai, hein? Il ne me parle plus. Ça arrive plus maintenant, les gens ici ont maturé, hein? Mais il est déjà arrivé qu'on rentre dans l'église et si on oubliait de saluer quelqu'un, ben. Elle était triste pendant 3-4 jours, hein, de penser que j'avais quelque chose contre elle. Hein. Elle ne venait pas le dimanche suivant, donc je vais l'appeler pour voir si elle était malade. Ben Vincent, tu ne m'as pas salué l'autre fois, qu'est-ce que tu as contre moi? Il y a des gens, ça ne prend pas grand-chose hein, pour perdre leur joie. Hein. Mais quand on a le Seigneur, là, peu importe que les gens nous parlent ou ne nous parlent pas, ce qui est important, c'est que le Seigneur parle à notre cœur à travers sa parole à chaque jour. C'est ça qui compte. Hein. Que tout le monde nous parle, mais qu'on n'entende plus la voix de Dieu, ça c'est un gros problème. Hein. Ça serait un gros problème pour moi. Là, je déprimerais. Hein. Ouais. Mais ce qui est important, c'est que ma communion avec le Seigneur ne soit pas coupée. Que ma relation avec Dieu ne soit pas coupée. C'est ça qui compte. C'est ça qui est important. Parce que ce n'est pas devant vous que je vais comparaître quand je vais mourir. C'est devant Dieu. C'est devant lui que j'aurai des comptes à rendre pour ce que j'aurai dit, pour ce que j'aurai enseigné, pour ce que j'aurai fait. Si le premier ingrédient qui apporte la joie, c'est une vie débarrassée de toute crasse, le deuxième ingrédient qui apporte la joie, que nous avons vu la semaine passée, et qui fait en sorte que la vie vaut la peine d'être vécue, c'est l'espérance vivante que Dieu nous ramènera un jour de la mort à la vie, comme il l'a fait avec Jésus. La résurrection, c'est le centre du véritable christianisme. Vous lirez l'Épître aux Corinthiens, Paul dit que si Jésus n'est pas ressuscité, on n'est pas mieux que les païens, on n'est pas mieux que les non-croyants, on n'est pas mieux que les athées. Mangeons et buvons, dit Paul. Mangeons et buvons, amusons-nous, parce qu'il n'y a rien d'autre après. Mais ce n'est pas ce que la Bible enseigne. Et Jésus est revenu de la mort à la vie. Et dans 1 Corinthiens, Paul parle qu'après sa résurrection, il a apparu à 500 personnes en même temps. Après sa résurrection, il a encore accompli des miracles à travers lui. Il a apparu à Paul sur le chemin de Damas. Et ça a bouleversé sa vie, cette rencontre-là. Paul est passé d'un meurtrier à un apôtre extraordinaire, l'apôtre des païens. Dieu a fait un réveil à travers l'apôtre Paul dans la province d'Asie et dans le nord de l'Afrique. Ouais. Frères et sœurs, l'importance de pouvoir rendre témoignage de notre foi. Si on prend du recul en Belgique, c'est parce qu'on n'ose pas témoigner. À l'époque de l'apôtre Paul, le nord de l'Afrique, à 98% avait été évangélisé, était chrétien. Les églises ont commencé à se battre sur des points de doctrine. On ferme nos portes. Ils ne pensent pas comme nous, on ferme nos portes. L'islam est arrivé par en arrière. Chut! 2% de l'Afrique du Nord aujourd'hui qui est chrétien. Ouais. Parce que les chrétiens, à ce moment-là, étaient bien, on est bien. Pas persécutés, on est super bien. On garde le message pour nous. Les gens meurent à l'extérieur sans Christ, c'est leur problème. Et Dieu a permis qu'il y en ait un qui vienne. Dieu a dit, ils ne sont pas dignes de me représenter. On a un beau message à témoigner. On n'est pas là pour assommer les gens avec l'Évangile. On est là pour leur communiquer la joie qui est la nôtre dans notre cœur, la joie que Dieu a déposée dans notre cœur, l'espérance que Dieu a déposée dans notre cœur. Racontez aux gens qu'il y a une vie après la mort. Demandez aux gens s'ils savent où ils s'en vont après la mort. Les gens ne savent pas, hein? Vous dites aux gens, est-ce que tu as préparé ta... Oui, j'ai préparé. J'ai payé là, les préarrangements et tout le tralala. J'ai un cercueil, j'ai des assurances-vie. Mais as-tu l'assurance-vie éternelle? As-tu pris l'assurance-vie éternelle? Ton corps, c'est rien, ça. Mais ton âme, la parole dit, l'âme retourne à son créateur. Ton âme, elle va sortir de ton corps quand tu vas mourir et elle va aller comparaître devant le créateur. Ecclésiaste, c'est ce qu'il dit, hein? L'Esprit retourne à celui qui l'a créé pour rendre des comptes. Si tu meurs dans tes péchés, c'est épouvantable ce qui t'attend. Si tu meurs parce que Christ a pris tes péchés sur toi, quelle extraordinaire joie tu vas rentrer parce que tu vas voir Jésus qui va te prendre la main et qui va te faire rentrer dans le paradis. Tout de suite. Tout de suite. Quelle joie extraordinaire. Et on a un beau message à transmettre. Le troisième ingrédient qui apporte la joie et qui fait en sorte que la vie vaut la peine d'être vécue, c'est le fait de demeurer ferme dans la grâce de Dieu. Romains chapitre 5, versets 1 et 2. On va le relire encore une fois. « Étant donc rendus juste devant Dieu à cause de la foi, nous sommes maintenant en paix avec lui par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons, d'avoir pu au moyen de la foi, nous approcher de la grâce de Dieu dans laquelle nous demeurons fermes. Et ce qui nous donne de la joie, c'est l'espérance d'avoir part à la gloire de Dieu. » L'espérance d'avoir part à la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est quoi? C'est l'espérance d'entrer dans la présence de Dieu. C'est l'espérance de voir Dieu manifester sa puissance. C'est l'espérance de voir Dieu régner sur cette nouvelle terre aussi, qu'on va régner avec lui, c'est ce que la Bible nous dit. Et je le répète, je l'ai dit déjà quelques reprises, Dieu est sur son trône, sur cette nouvelle terre, et il va nous dire, tu peux t'asseoir dessus. Allez vous asseoir sur le trône du roi de Belgique, vous allez voir. Asseyez. Et vous faire arrêter. Essayez de rentrer à la Maison-Blanche. Ce n'est pas le temps d'y aller dans ce temps-ci. Vous allez voir ce qui va vous arriver. Et Dieu qui tient l'univers dans ses mains, dit, écoute, sur cette nouvelle terre, tu vas régner avec moi, je vais te faire asseoir sur mon trône. Extraordinaire, quoi. Est-ce qu'on peut penser à la portée de ça? Dieu a fait en sorte que Jésus hérite de toutes choses, et il a fait de nous ses co-héritiers. Donc, tout ce que Jésus a hérité, on va l'hériter. Dieu ne nous doit rien. Hein? On n'a rien fait pour ça. Hein? Jésus a tout accompli pour qu'on devienne des héritiers, si on le veut. Hein? Jésus a tout accompli hein, pour qu'on devienne des enfants de Dieu, hein, si on le veut. Hein? C'est toujours si vous le voulez. Hein? Dieu ne force pas la main. Quand on aime, on ne force pas. Hein? Un homme ne peut pas dire que sa femme l'aime si, quand il part travailler, il l'attache dans la maison pour être sûr qu'elle ne le trompera pas. Hein? C'est pas ça, l'amour. Hein? L'amour, c'est faire confiance. Hein? Là, à ce moment-là, il peut dire, écoute, moi, quand je pars, je fais confiance à ma femme. Elle fait ce qu'elle veut. Et je lui fais confiance qu'elle va me rester fidèle. Mais l'attacher, la mettre dans le cas avec des chaînes, c'est pas dire ça que j'ai confiance en ma femme. Hein? Si je l'attache parce que j'ai peur qu'elle me trompe, hein? Ou j'ai un gros problème de la jalousie. Hein? Mais Dieu n'est pas comme ça. Hein? Dieu est amour. Et quand on aime, on ne force pas, on laisse les gens libres de dire d'accepter ou de refuser l'offre que Dieu nous fait en Jésus-Christ. Alors, j'ai déjà dit que le premier et deuxième ingrédient était un cœur purifié et l'espérance de la vie éternelle. Mais ce cœur purifié et cette espérance ne peuvent demeurer s'il n'y a pas un engagement ferme qui est pris de vivre comme Dieu le demande. Vous ne pouvez pas séparer ces trois choses. Vous ne pouvez pas avoir un cœur purifié. Vous ne pouvez pas avoir cette espérance à moins d'avoir pris la ferme résolution de vous soumettre à la Seigneurie de Jésus-Christ, car c'est là que se trouve le secret d'avoir un cœur pur et de le garder pur. Si je faisais un appel ce matin, je dirais, qui veut accepter ici Jésus-Christ comme Seigneur, qu'il lève la main. Comme Sauveur, pardon, qu'il lève la main. Comme sauveur, c'est-à-dire, écoutez, vous allez vous accepter de recevoir le pardon de vos péchés. Vous reconnaissez que c'est seulement par Jésus-Christ que vous pouvez recevoir le pardon de vos péchés, qu'il n'y a aucune bonne œuvre que vous pouvez faire pour recevoir un seul pardon de vos péchés. Il n'y a aucune bonne œuvre qui peut effacer un seul péché que vous avez commis. Que la seule œuvre qui peut réussir à effacer tous vos péchés, c'est l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix. Il a versé son sang pour vous, il a donné sa vie pour vous. Et si vous acceptez ce fait, si vous reconnaissez que vous êtes perdu dans vos péchés, que le seul moyen d'être sauvé, c'est à travers la croix, eh bien, vous recevez le pardon de vos péchés et la vie éternelle. Et là, si je disais, bien, levez la main ceux qui croient en ça. Déjà, c'est dur, hein? Mais le plus dur, c'est pas ça, hein? Le plus dur, maintenant, c'est qui va accepter Jésus-Christ comme le Seigneur de sa vie? Il y a des chrétiens, ça fait 30, 40, 50 ans qu'ils ont accepté Jésus-Christ comme sauveur et n'ont jamais accepté comme Seigneur. Quand le Seigneur veut les reprendre dans sa parole, on dit, Seigneur, mêle-toi de tes affaires. Moi, je vais continuer à mener la vie que je veux. Et frères et sœurs, les deux premiers ingrédients, ils arrêtent là si le troisième ingrédient, le Seigneur n'est pas, si Jésus-Christ ne devient pas le Seigneur de votre vie. Il y a des gens qui continuent à vivre dans le péché parce qu'ils pensent que pour eux, c'est des petits péchés et que pour Dieu, ça va passer de justesse quand ils vont comparaître devant lui. Et pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais fait de Jésus-Christ leur Seigneur. Et c'est dans la Seigneurie de Christ qu'on est libéré. La vérité vous rendra libre. Se soumettre à la Seigneurie de Christ, c'est se soumettre à la parole de Dieu. C'est de reconnaître que tout ce qu'il dit, c'est la vérité. Et si c'est la vérité, je me soumets à la vérité. Déjà qu'on croit tellement de mensonges en notre monde, bien qu'on fasse un effort au moins pour essayer de croire ce qui est la vérité. Mais la Seigneurie de Christ, là, c'est un combat de tous les jours. De dire à chaque jour, je remets toujours mes droits entre les mains de Jésus, je ne les reprends pas. Parce qu'à chaque fois que je les reprends, c'est que je mène ma vie comme je veux. Et Seigneur, prends un congé, prends une journée de congé, tu dois être fatigué, Seigneur. Je vais diriger ma vie comme je veux aujourd'hui, moi. Ouais. Mais on a des gros problèmes aussi, hein. Et la Seigneurie de Christ, c'est la troisième pardon, ingrédient. Et ce qui va nous amener, ça nous amène un troisième ingrédient, c'est ce que Paul dit. Hein. Nous demeurons fermes, étant donc rendus juste devant Dieu à cause de la foi, nous sommes maintenant en paix avec lui par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir pu, au moyen de la foi, nous approcher de la grâce de Dieu dans laquelle nous demeurons fermes, et ce qui nous donne de la joie, c'est l'espérance d'avoir part à la gloire de Dieu. Et frères et sœurs, ça paraît facile de vous dire ça, hein? Mais je sais, que, écoutez, moi je me mets à votre place parce que je l'ai préparé le message, hein? Ça torture quand même de préparer un message comme ça, et ça torture deux fois plus de le dire, hein? Je peux vous dire une chose, on est vraiment des têtes, un beau mot, je cherche un beau mot. Est-ce qu'on a une expression au Québec, je ne pense pas que ça passerait ici. On est dur, hein? On est dur à comprendre, hein? Pardon, une mule? Oui. Okay. Je n'aimerais pas de nom. Oui. C'est vrai, on est plus entêté qu'une mule. Plus entêté qu'une mule. Et c'est difficile d'accepter de céder tous nos droits entre les mains de Dieu. Mais le secret de la joie, là, il est là. Tant qu'on ne cède pas notre vie en totalité entre les mains de Dieu, cette joie céleste, elle ne nous est pas accordée. Vous voulez vous contenter d'une moitié de joie, d'être à moitié joyeux, à moitié triste? Il y a une histoire de Pierrot, hein? Vous voulez vous contenter d'être à moitié triste, d'être à moitié joyeux? C'est pas ce que le Seigneur veut nous réserver, hein? La plénitude de la joie que le Seigneur veut nous donner. En prenant sa décision, Paul a pris la ferme résolution de se consacrer entièrement à la cause de Christ et de se soumettre à la Seigneurie de Christ, et ce, peu importe où il irait et le prix que cela pouvait coûter. Il y a quelques années, à l'étude biblique, j'ai demandé aux gens, je prenais ça, à chaque année, je prenais la résolution de demander aux membres qui participaient à l'étude biblique de lire un livre, une biographie. Et cette année-là, j'avais demandé aux gens de lire la vie de Charleston. Qui connaît Charleston? Qui a déjà lu la vie de Charleston? Ben, c'est vrai, ceux qui ont suivi l'étude, OK. Charles Todd était le fils d'un riche planteur de thé, un champion de cricket, je dirais la première vedette superstar de son époque, qui a donné toute sa fortune quand il s'est converti et qui est devenu champion en Chine, champion de Dieu en Chine, aux Indes, en Afrique, et qui a adopté cette devise. Écoutez bien ce qu'il dit. Si Jésus-Christ est Dieu, et si Jésus-Christ est mort pour moi, il n'y a aucun sacrifice que je ne puisse faire pour lui. Il n'y a aucun trop grand sacrifice que je ne puisse faire pour lui. Ça, c'était ce qui a dirigé sa vie. Vous allez me dire que ce n'est pas tout le monde qui est appelé comme lui. Il a tout abandonné. C'est un homme qui avait énormément d'argent. On pourrait le considérer presque comme un milliardaire aujourd'hui. Il venait d'une famille riche. Il a hérité en plus de d'autres choses. Il a tout abandonné pour le Seigneur Jésus-Christ. Il a vu que les musulmans, il a vu que l'islam rentrait très fort en Chine, rentrait très fort aux Indes, rentrait très fort en Afrique. Il a dit, si Jésus-Christ est mon Dieu, s'il est vraiment mort pour moi, il n'y a aucun trop grand sacrifice que je ne puisse pas faire pour lui. Il est parti, il est allé en Afrique. Je vais vous dire pourquoi on n'est pas tous appelés à faire ça. Il est allé comme missionnaire en Afrique pendant 15 ans. Pendant 15 ans, il n'a pas vu sa femme. Sa femme, elle a dit, écoute chérie, je reconnais que tu es appelé à aller en Afrique. Je vais rester en Angleterre pour prier pour que Dieu puisse lever des fonds pour que tu puisses avoir un soutien là-bas, qu'il y a d'autres missionnaires qui ont été trouvés pendant 15 ans. 15 ans. Et là, il n'est pas allé sur des autoroutes. Hein. Il a défriché. Il a défriché à coups de grands, je ne sais pas trop, les grands sabres. Il a dû rentrer dans la brousse. Il a dû défricher parce qu'il a mis le pied là où personne n'avait jamais mis. Jamais mis. Mais c'était sa devise qui l'a poussé à aller de l'avant toute sa vie. Si Jésus-Christ est vraiment Dieu, s'il est mort pour moi, il n'y a aucun trop grand sacrifice que je ne puisse faire pour lui. Frères et sœurs, si ça devenait notre devise à nous, quel bouleversement on pourrait faire en Belgique. Prêt à tout sacrifier, prêt à tout mettre sur l'autel pour l'avancement du royaume de Dieu. F.B. Meyer, un pasteur fort connu qui deviendra un des grands théologiens de son époque et qui est maintenant au ciel, où il se réjouit en la présence du Seigneur, raconte qu'il n'a pas eu toujours la joie dans son cœur. Et dans un de ses livres, il nous livre le secret de sa joie et comment il a trouvé cette joie qui vient du ciel. J'aimerais que vous écoutiez attentivement ce qu'il a écrit. J'ai commencé un soir à ressentir cette joie céleste, celle que possèdent les anges et qui vient de Dieu, alors que j'étais agenouillé dans ma chambre et que le Saint-Esprit mit en lumière quelque chose qui était sale dans mon cœur, quelque chose que j'avais accumulé depuis un certain temps et dont j'étais bien conscient. La veille, Charles Studd était venu prêcher dans l'église où j'étais le pasteur. En entendant parler ce jeune homme, dit Meyer, j'ai réalisé qu'il possédait quelque chose que je n'avais pas. À 7 heures le lendemain matin, je suis allé le trouver en lui disant, « Excusez-moi de vous déranger à une heure aussi matinale, mais je n'ai pas cette joie que vous avez et que Dieu promet de donner à tous ceux qui lui appartiennent. Je suis le pasteur de cette église et les membres attendent beaucoup de moi, mais mon cœur est plein de crasse et je suis incapable de m'en débarrasser. Pourriez-vous, s'il vous plaît, me donner votre secret? » Charles Stott dit à Meyer, « Avez-vous abandonné entièrement votre vie à Jésus-Christ? » Je lui ai répondu que d'une manière générale, je l'avais fait. Si vous n'avez pas encore donné entièrement votre vie à Christ, retirez-vous dans votre chambre, prenez du temps avec Dieu et réglez ce problème le plus rapidement possible. Meyer dit, cette nuit-là, j'ai fermé la porte de ma chambre attelée. Je me suis mis à genoux au pied de mon lit en ayant pris la décision que je ne dormirais pas tant et aussi longtemps que je n'aurais pas réglé ce problème de tout abandonner à Jésus-Christ. J'ai eu l'impression que Jésus-Christ se tenait là à mes côtés. Il me demanda de lui remettre le trousseau de clés que je gardais dans la poche de mon pantalon. J'ai enlevé une petite clé qui se trouvait attachée au trousseau de clés et j'ai remis le trousseau à Jésus en lui disant, « Voici les clés de ma vie. » Il me regarda toute triste et il me dit, « Sont-elles toutes là? » Toutes, lui ai-je répondu, sauf une toute petite clé, mais elle est tellement petite qu'on ne remarque même pas qu'elle ne s'y trouve pas, Jésus. Jésus me répondit, « Mon enfant, « si tu ne peux pas me faire confiance en toute chose, tu ne peux pas me faire confiance en quoi que ce soit. » J'entendis alors Satan me chuchoter, « Tu ne peux pas lui donner cette chose. D'ailleurs, si tu donnes à Jésus ce qu'il veut, tu peux imaginer ce qu'il peut te demander par la suite. Ne cède pas. » Finalement, j'ai dit au Seigneur Jésus, « Je ne peux pas te donner la clé, mais j'attends que tu viennes toi-même la prendre. » Et je trouve que c'est magnifique, ça. Frères et sœurs, des fois, il y a une crasse qui traîne dans notre cœur. Hein? Et on n'a pas le culot, on n'ose pas l'enlever parce que ça nous donne une petite chose de plaisir. Ça nous enlève notre joie dans le Seigneur, mais ça nous donne un petit peu de plaisir. Hein? Ça flatte notre chair, on a de la difficulté à s'en débarrasser. Et Meyer, dans l'humilité, il a dit, « Seigneur, je ne suis pas capable de te la donner. Par contre, je te donne la permission de venir la chercher. » Écoutez ce qu'il dit. C'est exactement ce qui s'est passé. J'ai l'impression que le Seigneur ouvrit ma main et prit cette petite clé. Puis je me dirigeai vers un placard qui était maintenant déverrouillé dans ma chambre. Je l'ouvris et je vis à l'intérieur de ce placard une chose qui était terrible et laide. Jésus me dit, « Cette chose doit sortir de ta vie et tu ne dois plus jamais la pratiquer. » Puis Meyer dit, « À partir de cet instant, il prit la chose à laquelle je tenais tant et il l'a sortie de mon cœur. J'ai alors commencé à la détester et je me suis ensuite donné entièrement à lui. » Cette nuit-là, j'ai dit au Seigneur, « Seigneur Jésus, je veux que tu fasses ce que tu veux avec ma vie. » Le lendemain matin, je m'attendais à ressentir quelque chose de spécial, mais j'étais aussi calme et reposé que je le suis maintenant. J'avais maintenant l'assurance que j'appartenais à Jésus-Christ, comme jamais je ne l'avais ressenti auparavant. Et j'entendais constamment le Seigneur me dire, « Tu es mon enfant, Tu es maintenant mon ambassadeur, je me complais en toi. » F.V. Meyer dit que c'est là le secret qu'il cherchait depuis si longtemps et qui a donné une puissance extraordinaire à son ministère, aussi puissant que Wesley et tous ces grands hommes de Dieu qui l'ont précédé. Chers amis, y a-t-il une petite clé qui gâche votre vie ce matin et qui vous empêche de ressentir au plus profond de vous-même cette joie céleste? Est-ce que Jésus est le Seigneur de votre vie ce matin ou simplement votre Sauveur? S'il n'est pas le Seigneur de toute votre vie, il est le Seigneur de rien du tout. L'apôtre Paul parle de la joie d'appartenir au Seigneur, puis il parle de l'espérance et de l'importance que Christ soit le Seigneur de notre vie. En tant qu'enfant de Dieu, notre espoir, c'est que Dieu transforme notre situation, qu'il renverse les murailles et qu'il nous donne la victoire sur nos difficultés. Et Dieu a rendu toutes choses possibles par le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. C'est pour cette raison que nous devons le louer et le remercier. Vous n'avez plus aucune victoire à remporter dans votre vie. Christ les a toutes remportées. Tout ce que vous avez à faire en tant qu'enfant de Dieu, c'est vous appuyer sur la victoire que Christ a remportée sur la croix. Avez-vous réfléchi à ça quand Jésus dit « La vérité vous rendra libre » On va faire maintenant, quand on médite les Écritures, c'est ça qu'on fait, hein? Jésus dit, et la vérité vous rendra libre. La question qu'on doit se poser, si on commence à méditer les Écritures, c'est rendre libre de quoi? Hein? Je lis ça, moi ça ne me dit rien, hein? Mais il va nous rendre libre de quoi, Jésus? Alors là, vous partez, vous regardez libre, et le mot, le verbe, c'est libérer. Hein? Et là, vous allez dans libérer dans la parole. Libérer de la puissance que le péché exerçait sur vous, avant que vous le connaissiez. Libéré de la puissance que le diable exerçait sur vous avant que vous connaissiez Jésus. Libéré de la puissance que le monde exerçait sur vous avant que vous connaissiez Jésus. C'est cette victoire qu'il a remportée sur la croix. Nous étions tous esclaves du péché et nous a rendus libres grâce à ce qu'il a accompli sur la croix, parce que sur la croix, il a vaincu le péché, il a vaincu le diable, il a vaincu le monde, il a vaincu la mort. Et il vous a rendu libre à l'égard de la mort. Voilà pourquoi Paul, quand on enterre un chrétien, il dit, il s'est endormi. Pourquoi? Parce qu'un jour, il sera réveillé. Dieu va lui redonner un corps glorifié à la résurrection des morts. C'est un beau message, le message de l'Évangile, non? Hein? J'espère que ça vous rend joyeux ce matin. Et que si vous n'êtes pas joyeux et vous êtes dans la tristesse ce matin, peut-être parce que vous ne connaissez pas le Seigneur Jésus-Christ, bien là où vous êtes, faites une simple petite prière. Seigneur, je ne te connais pas. Je vis dans le péché, je ne suis pas capable de m'en libérer. Viens à mon secours. Viens à mon secours parce que à travers le message que j'entends ce matin, je m'aperçois que je suis perdu si je meurs demain matin. Que c'est l'enfer. Et là, je ne suis pas en train de vous faire des peurs. La Bible a dit que c'est l'enfer qui attend quelqu'un qui n'a pas ses péchés pardonnés. Et Seigneur, je sais à partir de ce matin, en entendant le message, que ce n'est pas en enfer que tu veux m'envoyer si tu veux me faire rentrer au ciel. Et que tu as payé un prix extraordinaire pour que je puisse entrer au ciel. Seigneur, donne-moi la capacité de dire oui à Jésus. Oui, qu'il devienne mon sauveur, pour que je sois libéré de mes péchés. Libéré de la tristesse qui m'envahit, parce que je commets toujours les mêmes bêtises, parce que je suis toujours tenté dans les mêmes choses, et puis que je tombe à chaque fois. Seigneur, donne-moi la victoire que tu as remportée sur la croix, qu'elle devienne mienne dans ma vie. Afin que je puisse avoir la joie, non pas sur mon visage, mais surtout dans mon cœur. Et si je l'ai dans mon cœur, elle va apparaître sur mon visage. Amen. Dernier ingrédient qui apporte la joie, qui fait en sorte que nous devons louer et remercier le Seigneur et qui vaut la peine d'être vécu, c'est celui de savoir que nous sommes réconciliés avec Dieu. Nous avons fait la paix avec Dieu. Dieu n'a jamais fait la paix avec nous. Dieu n'a jamais rien fait de mal. C'est nous qui avons fait la paix avec lui. C'est nous qui sommes ennemis de Dieu, nous dit Paul. C'est pas Dieu qui était notre ennemi, hein? Dieu n'a jamais été notre ennemi. C'est nous qui avions besoin de faire la paix avec Dieu. Et Dieu nous a donné le moyen. La croix, encore une fois la croix. Tout est concentré sur la croix. Étant donc rendus juste devant Dieu à cause de la foi, nous sommes maintenant en paix avec lui par notre Seigneur Jésus-Christ. Regardez ce qui est écrit sur leur Bible. Romains chapitre 5, verset 11. Nous nous réjouissons en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a maintenant réconciliés avec Dieu. Nous sommes devenus les amis de Dieu. Nous sommes devenus des amis de Dieu. D'ennemis de Dieu que nous étions, nous sommes devenus des amis. De pécheurs que nous étions, nous sommes maintenant devenus des saints en Jésus-Christ. Jésus-Christ était un homme de douleur et habitué à la souffrance. Pourtant, il y avait une joie profonde qui dépassait tout ce que le monde peut offrir. Et peu de temps avant qu'il soit livré à la mort, il a dit ceci à ses disciples. Écoutez bien. Jean chapitre 15, verset 11. Je vous ai dit ces choses afin que la joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Non, hein? Pas ça qu'il dit, hein? Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. La joie, c'est la marque de commerce de tout enfant de Dieu. Chaque enfant de Dieu doit avoir une joie continue et contagieuse. Si vous ne vivez pas une vie remplie de joie dans le Seigneur, vous vivez en vous privant d'un privilège qui est accordé seulement à quiconque est né de nouveau. Encore une fois, je répète, là, pour pas que vous me preniez pour un illuminé, quand vous avez un décès dans votre famille, vous ne devez pas sauter au plafond en souriant, puis « Alléluia », non! Il est normal en tant qu'humain qu'on éprouve une tristesse à l'égard de parents, de gens chers, de gens qui nous étaient chers, de gens qui nous ont mis au monde, des gens avec qui on a vécu. Il est normal qu'on ait une tristesse. Mais cette joie qui vient d'en haut, qui nous donne cette espérance vivante de passer l'éternité dans la présence de Dieu, elle ne peut pas... Il n'y a aucune situation dans la vie qui peut nous voler cette joie-là. Parce qu'elle ne vient pas du monde. Elle vient de Dieu. Donc les situations qu'on vit dans le monde ne peuvent pas nous enlever ce que Dieu nous a donné. Par contre, si c'est une joie banale qui vient du monde, quand il arrivera un petit coup fatal, on va tout perdre. Hein? On va courir, on va chercher un Valium, on va aller voir quelqu'un, on a besoin de soins, quoi. Mais la joie de Dieu, personne ne peut vous la voler si vous ne permettez surtout pas au diable de vous la voler. Et j'ai dit la semaine passée qu'il y avait une seule chose qui pouvait voler votre joie, c'était le péché. C'est la seule chose qui peut nous voler notre joie, c'est le péché. Ça assombrit notre relation avec Dieu. Et on ne peut pas faire Dieu complice de notre péché. Dieu prend un petit temps de recul et attend simplement que son enfant revienne, confesse son péché, pour que la lumière du Saint-Esprit éclaire à nouveau son cœur et que la relation avec son Sauveur et son Seigneur puisse reprendre. Quel Dieu merveilleux nous avons! Quel Dieu merveilleux! Dans Jean chapitre 15, verset 11, Jésus dit que la joie que vous avez en tant que chrétien, c'est sa joie à lui. Il dit « Ma joie ». Jésus veut prendre la joie qu'il a en lui et la déposer en vous. Est-ce que vous réalisez ça? Jésus veut prendre une portion de sa joie et la déposer en vous. Jésus vient d'en haut. Cette joie, je le répète, elle vient d'en haut. Et ce qui est d'en haut, il veut le déposer en vous parce que vous êtes né d'en haut. C'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance, la régénération en théologie. Ouais. Essayez d'imaginer. Jésus ne nous doit rien. Il n'est pas obligé de nous donner sa joie. Il n'est pas obligé de nous donner son Saint-Esprit. S'il était égoïste, il disait, ça, c'est ma joie, ça, je la garde. J'ai assez travaillé fort pour l'avoir, hein? Je la garde, hein? Ouais. Mon Saint-Esprit, écoutez, pourquoi, moi, que je risquerais de vous donner mon Saint-Esprit, que vous fassiez n'importe quoi? Non. Dieu n'est pas comme ça, hein? Dieu est un Dieu qui prend plaisir à donner. Il nous a donné la vie. Il nous a donné Jésus. Il nous a donné une espérance vivante. Il va nous donner une nouvelle terre et des nouveaux cieux. Il nous a donné une famille spirituelle. Il nous a donné des frères et sœurs en Christ. Regardez la liste. Il nous a donné des prophètes. Il nous a donné un sauveur, un Seigneur. Dieu est un Dieu qui donne. Si on ne reçoit pas, c'est parce qu'on ne demande pas. Hein? Recevez, vous demanderez. Rapidement. Le bonheur rencontre les besoins superficiels de l'homme, tandis que la joie rencontre les besoins les plus profonds de notre être. Le bonheur vient des circonstances extérieures, tandis que la joie vient de l'intérieur. Ce qui est réjouissant de savoir, c'est que Dieu ne change jamais. La Bible ne nous demande jamais de nous réjouir dans les circonstances, elle nous demande de nous réjouir dans le Seigneur. Et parce que le Seigneur demeure toujours le même et qu'il ne change pas, voilà pourquoi l'apôtre Paul nous dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Être chrétien joyeux ne signifie pas que vous ne souffrirez pas. En fait, c'est le contraire. J'espère que ce n'est pas une mauvaise nouvelle pour vous. Mais en tant que chrétien, on est appelé à souffrir. Et en tant que chrétien, le Seigneur nous dit de vous réjouir. Si vous souffrez pour une chose, à cause de son nom. On le voit à l'étude biblique, hein, depuis quelques semaines. Heureux êtes-vous si vous êtes persécutés à cause de mon nom. Parce que vous pouvez avoir l'assurance que si vous êtes persécutés à cause de mon nom, c'est parce que vous faites la volonté de mon Père. Pas heureux êtes-vous si vous êtes persécutés parce que vous insultez tout le monde. À cause de mon nom, dit Jésus. Vous pouvez parler de Dieu à l'extérieur, ça passe encore très bien parce que les gens se font une image de Dieu comme ils veulent. Mais aussitôt que vous ouvrez la bouche et que vous prononcez le nom de Jésus, ah! Il y a des gens qui seraient prêts à vous cracher dans la figure. Pourquoi? Parce que Jésus et Dieu qui sont la même personne, hein? Jésus qui s'est fait homme, il est venu face à face devant sa créature pour lui dire ce qu'elle était. Et pour lui dire ce qu'elle devait faire pour être transformée, être changée. Et la créature, elle est tellement orgueilleuse qu'elle a crucifié son propre sauveur et le Seigneur de gloire. C'est ce que Paul nous dit. C'est vrai qu'on est fou, on est plus têtu qu'une mule. La cigarette tue. C'est ça qui est marqué sur un paquet. Hein? Ça n'empêche pas les gens de fumer. Hein? La boisson, l'alcool tue. Hein? À petit feu. Hein? Ça n'empêche pas les gens de se saouler. Hein? On est des entêtés. Hein? Ah, lui est mort d'un cancer du poumon, pas moi. Hein? Non, non. Lui est mort parce qu'il buvait trop. Hein? Moi, je bois assez. Hein? 3 caisses de 24 par semaine, c'est pas comme lui. Hein? Ouais. On est des entêtés. Hein? Mais vous savez quoi? Dieu, dans son amour, il est encore plus entêté que nous. Et il va tout faire pour venir nous chercher. Il va tout faire pour nous amener à ouvrir nos yeux, faire tomber les écailles de nos yeux, pour nous montrer la réalité de ce qu'il est. On a un grand Dieu. On a un Dieu qui est bon. Et heureusement qu'on a un Dieu, la Bible nous dit, qui est lent à la colère. Lent, lent. Heureusement que son élastique, il l'étire. Hein? Heureusement que la patience, il est patient, notre Dieu. Hein? Dieu du haut du ciel, vous imaginez toutes les horreurs, les atrocités qu'il voit sur la terre présentement, et qui se retient pour ne pas se déchaîner. On a perdu même dans notre génération la notion de ce que c'est qu'un péché. Dans un des pays scandinaves, à partir de 14 ans maintenant, un père qui couche avec sa fille, c'est plus considéré comme étant de l'inceste. On est rendu à 14, ça va descendre à 13 à un moment donné, puis à 12. Hein? Parce que l'homme a décidé de prendre la place de Dieu, de décider ce qui est bien, ce qui est mal. Il y a d'autres atrocités semblables dans le monde hein, qui se passent. On n'est pas au courant. Hein? Ouais. Et on a un Dieu qui est patient, frères et sœurs. Ah! Beaucoup de chrétiens vivent sans avoir cette joie. Ils ont besoin de connaître le secret que Jésus nous donne pour être dans la joie. Dans Jean chapitre 15, verset 5. Tourne avec moi dans Jean chapitre 15, on va terminer avec ça. Jean chapitre 15, verset 5. Je suis la vigne, vous êtes les rameaux. Celui qui demeure uni à moi et à qui je suis uni porte beaucoup de fruits, car vous ne pouvez rien faire sans moi. Il y a trois choses importantes à retenir concernant la vie d'une branche. La branche dépend entièrement de la vigne. La vigne soutient la branche et lui fournit tout ce dont elle a besoin. La branche n'a jamais à s'inquiéter. Elle aura toujours ce dont elle a besoin pour vivre et grandir tant et aussi longtemps qu'elle demeure unie à la vigne. La branche n'est pas appelée à faire quoi que ce soit pour Dieu, juste demeurer unie à la vigne. Ce que nous faisons par nos propres forces n'a aucune portée éternelle. La branche s'en remet à la vigne afin de porter du fruit. C'est la vigne, par contre, qui produit le fruit. et le fruit de l'esprit, qui comprend la joie. Je tiens à vous dire qu'un des sept fruits de l'esprit, le premier, c'est l'amour, et la joie est importante, c'est le deuxième. La joie. Et pourtant, et pour que nous puissions voir cela, nous qui sommes les branches, nous devons nous abandonner totalement à la vigne et lui faire confiance. C'est la vigne qui produit le fruit, c'est la vigne qui donne la joie. Avez-vous remis tous vos problèmes et vos questionnements entre les mains du Seigneur Jésus? Lui avez-vous déjà dit, je n'ai plus de grandes solutions, de grandes ambitions, ni de désir que de me soumettre, de dépendre du Seigneur Jésus-Christ? Chers amis, c'est la recette pour avoir la joie qui vient d'en haut dans votre vie. Se réjouir demeure un choix. Voilà pourquoi Paul nous invite à se réjouir dans le Seigneur. Se réjouir n'est pas quelque chose d'automatique, c'est un choix que vous devez faire. Et ce choix commence en recevant Jésus-Christ, parce que connaître Jésus, c'est recevoir sa joie. J'aimerais terminer avec un verset dans les psaumes 97, 10, 12. Ceux qui ont leur Bible, tournez 97, 10, 12. Si vous voulez l'apprendre par cœur, vous l'apprendrez. Vous savez, le Seigneur, on dit qu'un chrétien n'a pas le droit d'haïr. Hein? Le chrétien doit aimer. Hein? Il y a une seule chose que le Seigneur nous demande d'haïr, et c'est dans les psaumes 97. Hein? Eh bien, vous savez quoi? C'est une des choses les plus difficiles qu'on a à haïr. Hein? Alors, on va lire ça ensemble. Hein? Bien, vous avez le droit de détester. Allez-y, foncez. Regardez ce qu'il dit. Vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal. Vous avez le droit d'haïr en tant que chrétien. Haïssez le mal. Il garde les âmes de ses fidèles. Il les délivre de la main des méchants. La lumière est semée pour le juste. Et la joie pour ceux dont le cœur est droit. Est-ce que ton cœur est droit ce matin? J'ai dit qu'il y avait le péché, c'était juste le péché qui te faisait perdre ta joie. Est-ce que tu as du péché dans ta vie qui n'est pas confessé? Est-ce que tu es pris avec une crasse dans ton cœur qui t'empêche vraiment, le Seigneur d'éclairer ton cœur, qui est illuminé par cette joie céleste qui vient d'en haut? Juste, réjouissez-vous en l'Éternel et célébrez par vos louanges sa sainteté. Et on peut louer sa sainteté parce qu'on est saints, frères et sœurs. Pas besoin d'être canonisés, nous autres. Hein? On est saints à partir du moment où on accepte Jésus. Hein? C'est ça, la vraie sainteté. Hein? On devient saint en Jésus-Christ. Hein? Ah. Et c'est magnifique. Réjouissez-vous en l'Éternel et célébrez par vos louanges sa sainteté. Mon frère, ma sœur, s'il y a quelque chose, une crasse dans ton cœur ce matin qui t'empêche pleinement de recevoir la joie du Seigneur dans ta vie ce matin, est-ce que tu es prêt à abandonner cette crasse? Et si tu n'es pas capable, si c'est trop fort pour toi, si c'est vraiment bien coincé dans ton cœur, fais comme F.B. Meyer a fait. Seigneur, je n'ai pas la force, tu sais dans quoi je suis esclave, Seigneur, tu sais dans quoi je suis coincé. Viens-toi le prendre. Viens-toi le prendre, Seigneur. Et si tu es Dieu, et si tu es vraiment mort pour moi, à partir d'aujourd'hui, il n'y a plus aucun sacrifice, aussi grand soit-il, que je ne puisse faire pour toi. On va se lever, on va chanter un cantique, on va inviter les musiciens.